Pour introduire mon sujet, je vous dirais que dans son histoire d'une âme, Sainte Thérèse... Le micro, ça va? C'est pas trop fort ou pas trop... Ça fait un petit écho. Dans son histoire d'une âme, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que le pape Saint Pie X appelait la plus grande sainte des temps modernes, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, écrivait: quelquefois, lorsque mon esprit est dans une si grande sécheresse qu'il m'est impossible d'en tirer une pensée pour m'unir au bon Dieu, je récite très lentement un autre Père et puis la salutation angélique. Alors, ces prières me ravissent, elles nourrissent mon âme bien plus que si je les avais récitées précipitamment une centaine de fois. Nous allons parler aujourd'hui, tout simplement, vous l'avez vu sur le papier, du Notre Père. Nous allons parler de cette petite prière que nous connaissons bien évidemment tous, et que nous avons récité dans notre vie, non pas des centaines de fois, non pas non plus des milliers de fois, mais certainement des milliers et des dizaines de milliers de fois. Mais peut-être, comme le dit Sainte Thérèse, nous l'avons dite, cette prière, souvent, trop souvent, trop précipitamment. Donc, sans en goûter la richesse extraordinaire dont parle Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus quand elle disait que cette prière la ravissait. Saint François de Sales disait déjà: la précipitation, c'est la mort de la dévotion. Et nous prions malheureusement souvent, nous en avons tous fait l'expérience, et moi le premier, moi encore ce matin dans l'office de prime, nous avons la récitation du pater, et j'ai récité mon pater à l'office de prime, et à la fin du pater, je me suis dit, ben, t'es quand même gonflé, hein. Tu l'as dit à une vitesse, et tu vas parler du pater aujourd'hui, et donc je l'ai redit, voyez, mais c'est plus fort que nous. Nous prions trop rapidement. Oubliant souvent que la prière n'est pas une simple récitation, n'est pas un simple énoncé de mots, mais qu'elle est avant toute chose, la prière, ou elle devrait être avant toute chose, une louange, une demande, une supplication adressée à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler du pater. Pourquoi du pater? Eh bien, parce que le Notre Père, avec ses sept demandes, c'est la prière, la petite prière, la plus parfaite que nous puissions adresser à Dieu. Pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que c'est une prière du ciel. C'est une prière divine et non pas une prière humaine. C'est la prière que n'ont pas Saint-Pierre ou Saint-Paul ou Saint-François de Sales ou Saint-Pie X nous ont donnée, mais c'est la prière que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a donnée quand il l'a enseignée à ses apôtres qui lui avaient dit un jour, qui lui avaient demandé: « Seigneur, apprenez-nous à prier. » C'est pourquoi on l'appelle cette prière l'oraison dominicale, de Dominus en latin, qui signifie le Seigneur. C'est la prière du Seigneur. On la trouve, cette prière du Notre Père, partout dans la liturgie catholique, au baptême, à la messe, à l'office divin, etc. Avant de parler du Notre Père proprement dit, disons juste quelques mots déjà sur la prière. La prière qui est quelque chose, d'un côté très simple et d'un autre côté assez compliqué. C'est à la fois très simple, le bienheureux Charles Foucault disait: prier, c'est penser à Dieu en l'aimant. C'est pas trop dur. Et pourtant, sous d'autres aspects, la prière est un art compliqué et un art difficile. C'est pourquoi cette demande, Seigneur, apprenez-nous à prier, c'est une petite phrase de l'Évangile que nous pouvons souvent redire avec les apôtres, car nous savons par expérience que la prière est un exercice qui n'est pas toujours facile. Pourquoi est-ce difficile? Eh bien parce que nous ne trouvons pas toujours les bons mots. Nous ne trouvons pas toujours les mots justes à adresser à Dieu. Ou encore parce que nous ne sommes pas toujours bien disposés à prier. Tout le monde sait que quand nous sommes un petit peu fatigués, il est bien dur de prier. Ou encore, quand nous avons la tête, et nous l'avons tous et toutes, la tête parfois pleine de colère ou de rancune, moi le premier malheureusement, eh bien il est également dur de prier, de garder son attention portée sur Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous dit d'ailleurs, avant d'aller présenter ton offrande à l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère. La prière est difficile encore parce que nous ne savons pas toujours ce qu'il est vraiment sage de demander à Dieu. La richesse, est-ce que la richesse est vraiment un bien pour moi? Les honneurs, un travail, tel ou tel, finalement nous ne savons pas. Saint Augustin dit que Dieu accorde parfois dans sa colère ce qu'il refuse dans sa clémence. À force de demander pendant des années la richesse, il va dire, bon ben finalement, je vais te la donner la richesse. Et tu vas voir. Vous voyez ? Donc nous ne savons pas toujours ce que nous devons demander à Dieu. Nous ne savons pas si pour prier nous avons besoin de 10 minutes ou d'une heure. Nous ne savons pas si nous devons dans la prière plus louer ou plus demander. Nous ne savons pas si nous sommes vraiment dignes d'être écoutés de Dieu. Tout ça fait que la prière est un art difficile et beaucoup de gens disent, avec humilité, mais certainement avec raison, je ne sais pas prier ou encore je n'arrive pas à prier. Alors notre Seigneur qui est un bon pédagogue, qui est un maître pour nous, un maître sûr, notre Seigneur qui est venu sur terre pour nous sauver, on médite sur ce salut particulièrement cette semaine sainte, notre Seigneur est aussi venu pour nous enseigner, et pour nous enseigner à garder ce qu'il nous a appris. Et il répondit à ses apôtres ce qu'il nous dit encore aujourd'hui, quand vous priez, dites Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, etc. Et il leur a pris cette prière du Notre Père que nous connaissons bien. Donc, ce Notre Père, c'est cette prière que nous devons réciter et réciter encore. Mais l'habitude de le réciter l'a peut-être, même très certainement, émoussé dans notre bouche. L'habitude, nous le savons tous aussi, c'est malheureusement, c'est quelque chose de terrible, car même les choses les plus saintes, comme recevoir la Sainte Communion, comme assister à la messe, ou comme célébrer la messe pour un prêtre, l'habitude fait que ces choses saintes, extrêmement saintes, si nous n'en prenons pas garde, peuvent, avec le temps, sembler des choses normales, voire banales, et que l'on fait machinalement. Et alors nous voyons les belles choses de la vie, les saintes choses de la vie, nous les voyons, nous les côtoyons, sans en réaliser malheureusement la grandeur. Si nous savions le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu. L'habitude dans la vie de tous les jours, c'est également ce qui fait qu'avec le temps, notre regard, pas seulement sur les choses saintes, mais aussi également sur notre mari, sur nos enfants, sur nos parents, sur la vie tout simplement, devient un regard blasé et non plus émerveillé. Et donc cette habitude, elle abîme la qualité de notre prière. La prière peut devenir routinière, au mauvais sens du terme. Et nous pouvons ajouter à cela les distractions qui rendent la prière encore plus difficile. Rappelez-vous cette petite histoire de saint François de Sales, au moins qu'on attribue à saint François de Sales, rencontrant un paysan dans un champ. Et le paysan lui dit, je n'ai jamais de distraction. Vous en souvenez tous probablement, mais peut-être certaines n'étaient pas là l'année dernière. Et saint François de Sales lui dit, bien écoutez, je parie mon cheval que vous n'arriverez pas à dire un autre père sans avoir une distraction. Pari tenu. Le paysan se lance, sûr de lui, et au milieu du Notre Père, il s'arrête et lui dit « Est-ce que vous me donnerez la selle avec le cheval ?» Donc les distractions, nous les avons tous. Pour ceux qui sont passés un jour dans une abbaye bénédictine, dans une abbaye, c'est réservé aux religieux, à la fin de chaque heure de l'office divin, l'heure se termine par cette petite phrase « Divinum auxilium maneat semper nobiscum » que l'aide divine demeure avec nous. Et les moines, les religieux ajoutent « Et pro fratribus nobis absentibus amen » et pour aussi nos frères qui sont absents. Et on peut penser aux frères qui sont dans les champs, aux frères qui sont en apostolat, voilà, qui ne sont pas au couvent ce jour-là. Et le père Jérôme, qui était un saint moine de l'abbaye de Sept-Fonds, disait « C'est aussi très certainement pour les frères qui sont là, mais qui sont absents. » Voyez, parce qu'ils sont distraits. Parce que nous sommes tous très souvent distrait dans la prière. Alors cette distraction qui est la nôtre, bien sûr, ne doit pas nous faire arrêter de prier, mais il est bon, parfois, de réciter, comme saint Thérèse l'Enfant Jésus, très lentement, un autre Père. Commençons donc par entrer dans le sujet propre de cette recollection. La prière du Notre Père commence par deux petits mots qui lui ont donné son nom. Notre Père, Pater Noster. Si seulement nous pouvions dire ces deux petits mots quand nous récitons notre Pater en réfléchissant vraiment à ce qu'ils contiennent. Alors vous le faites probablement toutes, mais moi je ne le fais pas assez souvent. Ces deux premiers mots du Notre Père sont sans doute les deux mots les plus importants de cette prière. Si nous devions résumer au plus court l'histoire de notre religion, si nous devions jeter une lumière sur toute l'histoire du salut, sur la raison de notre existence aujourd'hui sur Terre, sur le but de notre existence, eh bien nous pourrions dire tout simplement que nous sommes sur Terre, vous le savez bien, par amour. Dieu nous aime. C'est le grand message du christianisme. Dieu est charité. Et Dieu nous aime parce qu'il est notre Père. Ou encore, on peut le prendre dans les deux sens, parce qu'il est notre Père, Dieu nous aime. Il nous aime tant qu'il veut faire de nous ses enfants. Tout est là, et nous pourrions méditer sur cela presque toute une vie, et là encore, l'habitude, nous savons depuis tout petit que Dieu est notre Père, l'habitude nous fait considérer un peu comme normal ce qui est pourtant extraordinaire. Dieu a jeté son regard sur nous, car il nous aime, et il nous a fait des fils de Dieu. L'abbé Henri Brémond, qui était membre de l'Académie française, mort en 1933, dans un de ses nombreux volumes de l'histoire littéraire du sentiment religieux, rapporte une petite histoire. Une petite histoire qui était arrivée à la fondatrice des Bernardines réformées du Dauphiné. Une fondatrice d'ordre religieux. Et un jour, alors qu'elle était petite dans son enfance, elle rencontra cette future fondatrice une pauvre vachère, une fille donc qui gardait les vaches, et qui lui parut si rustique, dit-il, qu'elle paraissait n'avoir aucune connaissance de Dieu. Donc cette future fondatrice, bien pieuse, tira cette rustique vachère un petit peu à l'écart, et se proposa, en bonne future fondatrice et en bonne fille bien pieuse, eh bien, de lui expliquer un petit peu le catéchisme. On allait lui donner une petite leçon. Et cette bachère, qui était en fait une âme très belle, très simple, très pure de tout orgueil et donc très proche de Dieu, cette bachère va lui demander quelque chose qui va marquer toute sa vie la future fondatrice. Et c'est souvent comme ça, on se propose d'éduquer nos enfants et nos enfants nous apprennent, et on les éduque évidemment, mais ils nous apprennent aussi beaucoup. Et ils nous sanctifient beaucoup et ils nous transforment. Donc notre bachère demanda à cette future fondatrice, pour ne pas dire, pour reprendre les termes de l'abbé Brémond, qu'elle la supplia avec abondance de larmes de lui apprendre ce qu'elle devait faire pour achever son pater. Car, disait-elle, dans son langage des montagnes, « Je n'en saurais venir à vous depuis près de 5 ans. Lorsque je prononce ce mot de père et que je considère que celui qui est là-haut, disait-elle en levant le doigt, que je considère que celui-là même est mon père, je pleure et demeure tout le jour en cet état, en gardant mes vaches. » Allez. Dieu est notre Père. Nous avons une religion extraordinaire. Alors nous le savons bien, mais nous le savons tellement que nous perdons souvent par habitude, parce que nous sommes trop habitués, parce que également nous sommes plongés dans une vie trépidante et pleine de soucis, nous perdons un peu cette capacité de nous émerveiller devant ce qui est pourtant si merveilleux. Nous avons une religion extraordinaire où Dieu est notre Père et où nous sommes ses enfants. La distance entre Dieu et nous est d'un côté infinie. On peut se rappeler cette parole de Dieu le Père dite à Sainte Catherine de Sienne, « Je suis celui qui suis, tu es celle qui n'est pas. » C'est cela la réalité. Donc. Et pourtant, Dieu se penche sur notre néant et nous demande de l'appeler notre Père. Ce n'est pas banal, ce n'est pas pour rien que l'Église, quand elle chante le Pater à la messe, à chaque messe, après le canon, l'Église dit auparavant par la bouche du prêtre « Oremus » Precepti salutaribus moniti, prions, avertis par les préceptes du Sauveur et instruits par ses divines leçons, audemus dicere, nous osons dire, Pater Noster. Nous osons dire parce que c'était en effet extrêmement audacieux de notre part d'appeler Dieu notre Père, mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a appris à faire ainsi. Vous voyez, ce n'est pas normal, c'est extraordinaire. Notre Seigneur aurait pu répondre à ses apôtres quand ils lui ont demandé de leur apprendre à prier. Quand vous priez, dites « Dieu éternel et tout-puissant, obtenez-nous, je vous en prie ceci, obtenez-nous cela, etc. » Cela n'aurait pas été une mauvaise prière. Où il aurait pu, comme dans l'Ancien Testament, nous expliquer que le nom de Dieu, le nom de Yahvé, est un nom terrible qu'on ne doit pas prononcer ou même écrire, et c'est pour cela qu'il les utilisait plein d'autres mots comme Adonai pour parler de Dieu. Mais il a dit à ses apôtres, et donc à chacun d'entre nous, quand vous priez, dites notre Père. C'est la grande révélation du Nouveau Testament. Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Bien sûr, nous le savions d'une certaine manière, parce que Dieu étant notre Créateur, eh bien, il était en quelque sorte notre Père, comme on dirait ça fait des anciennes sonneries. Comme on dirait que le père de la guillotine est le docteur Guillotin. Vous voyez, le créateur est le père de sa créature. Nous savions aussi que Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et qu'il n'avait donné cette faveur extraordinaire à personne d'autre. J'entends, Dieu n'avait pas créé les animaux à son image et à sa ressemblance. Il n'avait pas créé les cailloux à son image et à sa ressemblance. Donc il y avait, c'est vrai, une certaine paternité divine sur nous. Mais quand nous disons à Dieu dans le pater qu'il est notre père, c'est au sens le plus fort du terme, qui veut que nous soyons non pas seulement des créatures de Dieu ou encore des images de Dieu, mais des fils de Dieu. Nous sommes membres de la famille divine. Nous avons Jésus-Christ pour frère. C'est Dieu qui nous a donné la vie, bien sûr, par l'intermédiaire de nos parents. Mais ceci ne sont que des causes secondes, des instruments, en quelque sorte, de Dieu, car Dieu, lui, il nous a voulu de toute éternité. Cela remonte bien plus loin que le souhait très beau de nos parents de nous donner la vie, mais qui remonte, lui, à 20, 30, 40, 50, 120 ans au maximum. Mais Dieu, lui, il nous a voulu de toute éternité. Si nos parents nous ont donné un corps, Dieu, lui, nous a donné une âme. Et il nous appelle, Dieu, à vivre de sa vie. Et en cela, il est bien plus père que n'importe lequel des pères sur terre. Nous recevons évidemment énormément de nos parents. Mais s'ils nous apportent et nous apprennent beaucoup, ils nous apprennent surtout à vivre notre vie. Notre vie qui n'est pas la leur. Ils nous apprennent à nous détacher d'eux en grandissant et à fonder un jour une famille qui sera notre famille à nous par opposition à la famille d'où nous venons. Nos parents doivent nous dire à un certain âge au revoir. Et les belles-mères pénibles, ce sont celles qui s'immiscent trop dans notre vie quand le cordon a été coupé, celles qui continuent à nous faire des remarques ou à en faire plus souvent encore sur notre mari, alors que maintenant nous sommes grands. Et bien avec notre Père du Ciel, c'est le contraire. Si nous devons apprendre à nous détacher de nos parents, lui au contraire veut que toute notre vie et même toute notre éternité, eh bien nous vivions de sa vie même. Et plus encore, il veut sans cesse que nous nous attachions à lui davantage. La paternité de Dieu sur nous, elle est beaucoup plus réelle, beaucoup plus actuelle et importante que celle de nos parents sur terre. Aussi bon soit-il. Elle est une paternité qui va devenir de plus en plus forte au fur et à mesure de notre vie, alors que celle de nos parents doit devenir de plus en plus faible, c'est ainsi. Autre chose remarquable, nous avons chacun d'entre nous, dans nos veines, du sang de nos parents, et c'est très beau. Le Saint Curé d'Ars, en parlant de notre Seigneur, disait qu'il avait pris son sang du sang de la Sainte Vierge. Et c'est très vrai, et c'est un titre de gloire, évidemment, pour la très Sainte Vierge Marie, d'avoir donné son sang à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans nos veines, coule le sang de nos parents. Mais surtout, coule dans nos veines le sang de Dieu. Et attention, ce n'est pas une image. Ouvrons les saints évangiles. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Celui qui me mange vivra aussi par moi. Il n'en est point comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Ce n'est pas seulement réservé aux prêtres qui voient le précieux sang à la messe, puisque puisque quand vous recevez la Sainte Eucharistie, vous recevez le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans notre corps coule le sang du Christ. Et il y a cette très belle prière qu'on lit rarement dans notre missel, la prière que le prêtre récite à la fin de la messe, quand les servants de messe font couler sur ses doigts de l'eau pour purifier ses doigts, voyez, au moment des ablutions, il dit « Que votre corps, Seigneur, que j'ai reçu, et votre sang que j'ai bu, adhère à mes entrailles. » Voyez, ce sang demeure en nous. C'est le souhait de l'Église. Le sang de Dieu coule dans nos veines parce que nous avons communié. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. À chaque fois que nous communions, nous recevons en nous notre Seigneur Jésus-Christ avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Notre sang est quelque part le sang du Christ lui-même. Dans le même sens, également, nous devons voir Dieu dans notre prochain car Dieu habite en chacun d'entre nous par sa grâce, mais également par son sang qui coule dans nos veines depuis que nous communions. Et c'est pour cela que celui qui persécute les chrétiens et fait couler leur sang persécute le Christ lui-même et répand le sang de Dieu. Je suis, dira notre Seigneur à saint Paul, qui n'était pas encore saint Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Et c'était les chrétiens qui le persécutaient. Ajoutons d'ailleurs à cela une autre considération. Vous savez que dans certains cas d'accident ou de maladie, il est nécessaire pour la personne accidentée de recevoir une transfusion. Et cette personne recevra en elle ainsi du sang d'une autre personne. En France, les dons du sang sont anonymes, et ainsi la personne transfusée ne saura jamais quel a été son bienheureux bienfaiteur. Elle ne pourra même pas le remercier. Eh bien, d'une certaine manière, nous avons tous été transfusés. Nous avons tous été transfusés car pour nous sauver, notre Seigneur a donné son sang pour que ce sang coule sur nos âmes et nous sauve. Donc, Dieu est notre Père et il est plus Père que le meilleur des Pères. Les pères de cette terre transmettent à leurs enfants, en général, après leur mort, tout leur héritage. Et encore, bien souvent, ils ne le donnent point vraiment, mais en fait, ils laissent ce qu'ils ne peuvent pas emporter avec eux. Mais Dieu, qui ne peut pas mourir, dès le premier instant de notre adoption divine, à notre baptême, nous a déjà tout donné en nous donnant sa vie même. Et il nous a donné son Fils. Et dans les héritages, encore, il y a un partage. Vous voyez, 10 enfants, un dixième pour chacun. Tandis que Dieu, lui, il se donne tout entier en héritage à chacun de ses enfants. Et si les pères, d'ici-bas, tout limité qu'ils soient, veillent sur leurs enfants et tâchent de les protéger et de les conduire sur le chemin de la vie, combien plus et combien, surtout avec plus d'efficacité et de force, notre Père du Ciel veille-t-il bien sur chacun d'entre nous. Nous allons en parler quand nous commenterons la demande du pain de chaque jour. Comme tous les pères, Dieu veille sur nous. Il veille et il nous envoie ce qui est bon pour nous. Car il sait, avec sa sagesse de Père, ce qui est bon pour ses enfants. La providence de Dieu doit sans cesse être honoré. Je crois qu'il est profondément injuste de dire, comme certains, quand un malheur nous accable, qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour avoir ceci ou cela. Et on trouvait déjà cette plainte dans l'Ancien Testament. On voyait la plainte du peuple d'Israël contre Dieu, que l'on trouve chez le prophète Isaïe, et que vous aviez en lecture de la messe le samedi de la quatrième semaine de carême. Je cite Sion, c'est Israël, donc c'était le peuple élu. Sion dit: le Seigneur m'a délaissé, Dieu m'a oublié. Oui, les plaintes ne changent pas. Et la réponse d'Isaïe, la réponse de notre Seigneur, était très belle. Mais une mère peut-elle oublier son enfant et ne pas être émue par le fils de ses entrailles? Et cependant, quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai jamais. Je te porte gravé dans mes mains. Et le pape Benoît XVI, commentant ces paroles d'Isaïe cette année, disait qu'elles étaient probablement parmi les plus touchantes des Saintes Écritures. Quand même une mère t'oublierait, moi je ne t'oublierai jamais. Je te porte gravé dans mes mains. Dieu veille sur ses enfants. Il est le grand veilleur. Sainte Joséphine d'Aquita est née vers 1869. On ne sait pas exactement l'année. Et avant d'être notre sainte, elle était une petite fille soudanaise, bien heureuse comme toutes les petites filles, joyeuse. Et voilà qu'à l'âge de 7 ans, elle va être enlevée et vendue comme esclave. Elle va être vendue 5 fois. Et un de ses maîtres la battra tous les jours. Son corps est tatoué, mais tatoué au rasoir, comme l'était souvent celui des esclaves, et les plaies sont ensuite bouchées par du sel. Et donc elle va garder, de ce tatouage un peu gourrieux, elle va garder pour le reste de sa vie 144 cicatrices. Finalement, après des années, elle va être vendue au consul d'Italie à Khartoum, qui lui va la traiter plutôt bien, et elle va se retrouver ensuite dans une famille chrétienne. Elle sera baptisée, confirmée, communiée par le patriarche de Venise. Elle avait 21 ans. La petite Joséphine, c'est son prénom de baptême, après avoir tant souffert, savait ce que c'était que d'avoir enfin Dieu pour père. Souvent, elle venait baiser les fonts baptismaux où elle avait été baptisée en disant « Ici, je suis devenue fille de Dieu. » Dieu est un père qui veillait sur son enfant depuis très longtemps. Elle deviendra religieuse et le futur Saint Pie X, alors patriarche de Venise, le cardinal Sarto, dira à celle qui, encore une fois, avait tant souffert, « Faites vos vœux sans crainte aucune. Jésus vous aime, aimez-le et servez-le toujours comme vous l'avez fait jusqu'ici. » Plus tard, et c'est là en fait où je veux en venir avec cette petite histoire, plus tard, comme elle racontera sa vie, en témoignage, une élève italienne demandera un jour à Sœur d'Aquita ce qu'elle ferait si elle rencontrait par hasard ceux qui l'avaient enlevée. Et notre sainte répondit sans hésitation: si je rencontrais les trafiquants d'esclaves qui m'ont enlevé, et même ceux qui m'ont torturé, je me mettrai à genoux et baiserai leurs mains. Si ce qui m'est arrivé n'avait pas eu lieu, comment serais-je devenu chrétien? Oui. La providence de Dieu prend toujours des chemins que nous ne connaissons pas. Dieu est un père qui veille sur ses enfants et qui possède une sagesse qui déconcerte la nôtre. Donc essayons d'éviter de trop nous plaindre. Et puis avançons un peu dans l'autre père. Seigneur, ce n'est pas mon père ou encore père que vous nous avez appris à dire au début de cette prière, mais c'est notre Père. Pourquoi notre Père ? Eh bien, c'est Jésus qui nous lit encore dans l'Évangile, parce que vous êtes tous frères, et vous n'avez qu'un seul Père qui est dans les cieux. Nous sommes tous frères pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que nous avons la même origine lointaine, car nos lointains grands-parents sont Adam et Ève. Nous sommes tous frères encore car nous avons tous été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes tous frères car nous avons le même Père du ciel et que nous avons la même destinée. Parce que Jésus-Christ, comme le dit saint Paul, est le premier-né d'une multitude de frères. Et pour les chrétiens, nous l'avons dit, nous sommes encore plus frères par cette grâce divine commune en nos âmes et par ce sang divin qui coule dans nos veines. Vous vous souvenez peut-être de cette petite histoire que nous avions lue l'année dernière au réfectoire, pendant le repas, la vie de Mgr Ghica, ce prince roumain devenu prêtre, et qui était parti vivre dans un bidonville dans la région parisienne, dans une petite cabane très pauvre. Il finira martyr dans une prison communiste. Donc il s'était installé à Villejuif, dans cet endroit le plus déshérité de la région parisienne, où l'absence de Dieu était la plus tragique. Et là, dans un grand dénuement, il vivait sans chauffage. Près de là vivait un anarchiste férocement anticlérical, qui était gravement malade. Sa femme était renvoyeuse de chaise. Cherchant un prétexte pour l'aborder, l'abbé Ghica, à l'époque, trouve chez les amis une chaise à renvoyer. Et il se présente chez ses voisins. En le voyant, l'anarchiste explose en un torrent d'injures contre le curé. Le prêtre l'écoute, et quand son insulteur se tait, il lui met amicalement la main sur l'épaule. « Ne me touchez pas !» crie l'anarchiste. « Si quelqu'un nous voyait, on pourrait croire que quoi ? Que nous sommes camarades ! Mieux que cela !» répond le prêtre. Nous sommes frères. Et il sort, laissant son interlocuteur sidéré, et il reviendra par la suite prendre des nouvelles de sa chaise, et surtout bavarder avec cet anarchiste, qui l'adoucira peu à peu, et qui recevra les derniers sacrements avant de mourir. Donc nous sommes frères. Alors vous direz peut-être, très bien, nous sommes frères, nous le savons, mais quand je prie dans ma chambre, sans avoir quelqu'un à côté de moi, ne pourrais-je pas dire pour autant « mon Père qui est aux cieux » ou « Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié » Eh bien non. Car nul ne peut vraiment dire du fond de son cœur à Dieu « mon Père » ou encore « Père » s'il n'est pas capable de dire sincèrement « notre Père ». Cette paternité que nous invoquerions en disant « Père » ne serait pas juste si nous ne pouvions considérer les autres enfants de Dieu comme des frères. Donc, pour vous prouver, Seigneur, que je vous reconnais pour mon Père, je reconnaîtrai tous vos enfants comme mes frères et je vous dirai ainsi « notre Père ». Il y a une autre raison qui nous montre combien il est bon de dire « notre Père », c'est que pour un chrétien, la mesure d'amour pour notre prochain détermine le degré même d'amour pour Dieu. Pourquoi ? Parce que pour un chrétien, le motif d'aimer le prochain, c'est Dieu lui-même. Et c'est pour cela que l'on peut dire qu'il n'a pas Dieu pour père, il n'a pas son prochain pour frère. Saint Vincent de Paul, qui ne s'est pas seulement soucié de la misère des corps, mais qui s'est aussi soucié de la misère des âmes, en particulier avec la fondation de la congrégation de la mission pour évangéliser les campagnes, saint Vincent Paul demandait « Comment puis-je aimer Dieu si mon prochain ne l'aime pas ?» C'est l'amour du prochain qui fit que saint Paul, comme il le disait, se fit romain avec les romains, grec avec les grecs. C'est ce même amour du prochain qui fit que saint Damien, l'apôtre de cette île de Molokai, cette île de Molokai il y a un peu plus d'un siècle, où étaient parqués des centaines de lépreux, quand il prêchait sur cette île, il leur disait avant même d'avoir contracté la maladie, nous, les lépreux, tellement il voulait s'identifier à eux. C'est parce que Dieu est notre Père que dans les communautés religieuses, on essaye de vivre la vie la plus parfaite possible, les moines entre eux s'appellent frères. Et les religieuses, entre elles, s'appellent sœurs. C'est une manière surnaturelle de se rappeler cette paternité de Dieu sur chacun d'entre nous. C'est cette paternité universelle de Dieu, au sens le plus large, cette paternité que nous n'avons pas le droit de nier dans le prochain, même si la grâce divine n'est pas encore infuse dans son âme par le baptême, même si le sang divin ne coule pas dans ses veines. C'est cette paternité universelle de Dieu qui est le Père de chacun et qui veut réunir ses enfants autour de lui. C'est cette paternité qui nous fait voir, donc, dans le prochain et même dans un ennemi, un frère. Un pauvre frère, peut-être bien à plaindre, mais un fils de Dieu pour lequel Jésus a répandu son sang. Notre Seigneur, dans l'Évangile, est clair, mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. Et c'est ce que nous devons faire, tendre l'autre joue. Tendre l'autre joue, non pas pour recevoir un deuxième soufflet peut-être, mais pour donner au moins une chance à celui qui nous a frappé une première fois, et bien de se reprendre, et cette fois-ci d'embrasser cette joue et de demander pardon. C'est parce que nous sommes tous frères que non seulement les moines et les religieuses, mais que le prêtre peut souvent commencer son sermon par cette petite appellation « mes bien chers frères ». Nous devons donc aimer notre prochain parce qu'il est notre frère, mais l'aimer comme Dieu l'aime. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À la manière du Christ qui a donné sa vie pour nous sauver et qui, s'il n'aime pas le péché, bien sûr, aime cependant le pécheur. Et notre examen de conscience sur nos rapports avec le prochain, sur la manière avec laquelle nous pardonnons, nous allons en reparler cet après-midi, est toujours pour chacun d'entre nous une épreuve de vérité sur notre amour pour Dieu. Saint Jean Chrysostome, 5e siècle, nous explique aussi que notre prière sera plus efficace en utilisant le mot « notre ». Alors là, vous êtes tous tout inquiètes en vous disant « on est encore un autre Père ». Encore là demain. Dieu, dit-il, écoute plus volontiers le chrétien. Saint Jean Chrysostome, Dieu écoute plus volontiers le chrétien qui ne prie pas seulement pour lui-même, mais encore pour les autres. Prier pour soi, c'est l'inspiration de la nature. Prier pour les autres, c'est l'inspiration de la grâce. En priant pour soi, on obéit à la nécessité. En priant pour les autres, on cède aux exhortations de la charité fraternelle. Or, terminait-il, la prière qui vient de la charité fraternelle est plus agréable à Dieu que celle qui procède de la nécessité. Et non seulement, nous pourrions ajouter, non seulement nous devons voir dans le prochain un frère, mais poussons plus loin et plus haut encore, l'idéal serait de voir dans le prochain un autre Christ. Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, nous dit Jésus, c'est à moi que vous l'aurez fait. Et c'est ce qui nous donne Mère Teresa qui disait à ses sœurs, quand vous pensez les plaies des pauvres, rappelez-vous toujours que ce sont les plaies du Christ. On peut penser à saint Martin donnant son manteau à un pauvre et voyant notre Seigneur le soir dans un songe revêtu de cette moitié de manteau qu'il avait donné. Notre Père qui êtes aux cieux, on avance, il est toujours 6h10. La bienheureuse Élisabeth de la Trinité disait « Le ciel, c'est Dieu ». En disant « Notre Père qui êtes aux cieux », nous énonçons donc peut-être une phrase évidente. Mais en disant cela, nous sommes surtout invités à nous rappeler que Dieu dépasse et dépasse infiniment toute chose ici-bas. Si nous voulons nous unir vraiment à Dieu, si nous voulons chercher Dieu, si nous voulons trouver Dieu, il va falloir savoir élever nos regards plus haut. La vie éternelle, disait notre Seigneur dans l'Évangile en parlant du Père, la vie éternelle, c'est qu'il vous connaisse. Nous connaîtrons Dieu. J'entends parfaitement, sans voile, quand la lumière de gloire nous sera donnée au ciel. Quand nous serons entrés dans la vie éternelle, cette lumière de gloire, cette vie éternelle, elle n'est pas pour ici-bas, et nous devons nous rappeler que nous sommes en pèlerinage vers le ciel, où nous serons un jour, mais pas tout de suite. Où nous serons un jour parfaitement unis à Dieu, mais pas tout de suite. Et tant que nous serons sur terre, eh bien nous serons partagés, comme ce bon grain est livré. Nous serons partagés parce que notre regard sera toujours un peu, parfois beaucoup, porté sur les choses d'ici-bas, et souvent même par nécessité. Et en disant donc « Notre Père qui êtes aux cieux », nous sommes invités à chaque fois à nous rappeler que notre terre promise, où coule le lait et le miel, cette terre promise, ce n'est pas Israël comme dans l'Ancien Testament, c'est le ciel. Si cette considération du ciel est bien sûr importante et nécessaire pour tous, je crois qu'elle l'est particulièrement pour ceux qui souffrent sur terre, afin que la petite sœur Espérance ne s'éteigne pas sous la somme des douleurs. Oui, un jour, cela ira mieux, un jour le ciel s'ouvrira. Notre ultime espérance sur terre, ce n'est pas ceci ou ce n'est pas cela, finalement, c'est toujours le ciel. Le cardinal Journet posait cette question. Si la puissance de Dieu est infinie et sa tendresse sans borne, comment donc se fait-il que nous puissions nous sentir à certaines heures pareillement seuls, pareillement abandonnés? Et cela peut-être est arrivé à certaines d'entre vous d'être particulièrement accablés. Cela arrive aux chrétiens persécutés d'Irak ou d'ailleurs. Et le cardinal Journet répondait, c'est que notre Père est dans les cieux. Et nous, nous ne sommes pas encore avec lui. Nous sommes encore sur la terre. Et parfois, nous sommes même pleins de terre. Et la terre peut même devenir notre suprême patrie quand nous oublions Dieu. Et quand tout va mal, quand la persécution s'abat, nous rappelons ou nous devons nous rappeler que nous sommes sur terre en exil. Et c'est là qu'il faut lever la tête et nous rappeler qu'un jour, nous serons dans la Jérusalem céleste au ciel. Et comme le dit saint Jean, dans cette vision de l'Apocalypse, Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. En disant « Notre Père qui êtes aux cieux », nous sommes invités donc à nous tourner vers le ciel qui est notre véritable patrie. Et le désir du ciel, cette promesse du ciel doit nous aider à supporter les vicissitudes de cette vie. Saint Jean de Chantal avait une petite expression toute courte que je vous avais déjà donnée, à cause des biens que j'attends, à cause du ciel, à cause des biens que j'attends, mes travaux me sont passe-temps. Il faudrait tous les jours dans notre prière demander à Dieu de nous faire désirer le ciel. Sinon, nous risquons de ne plus voir que la terre et de ne plus vivre pour aller au ciel. Or, le bonheur, le vrai, celui qui ne passe pas, ce bonheur ne peut pas se trouver sur terre, car le bonheur, c'est Dieu. Et si nous n'en sommes pas persuadés, eh bien nous risquons un jour de chercher notre paradis sur terre. La Sainte Vierge, à Lourdes, a dit à Sainte Bernadette, « Je ne te promets pas le bonheur dans ce monde, mais dans l'autre. » À Fatima, lors de la première apparition, Lucie demanda à la Sainte Vierge, « De quel endroit êtes-vous, madame ?» Et la Sainte Vierge répondit, « Je suis du ciel. » Vous êtes du ciel, et moi, irai-je au ciel ? Oui, tu iras. Et quand la Sainte Vierge montrera aux trois petits visionnaires l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs, Lucie dira plus tard, cette vision ne durera qu'un moment, grâce à notre bonne mère du ciel, qui auparavant nous avait prévenus, nous promettant de nous emmener au ciel. Autrement, je crois que nous serions morts d'épouvante et de peur. C'est la pensée du ciel, la promesse du ciel qui doit nous aider parfois sur terre à tenir. Le petit Francesco de Fatima, un jour, fut arrêté par deux dames qui étaient bien contentes de pouvoir mettre la main sur le petit visionnaire dont on parlait tant, et elles se mirent à lui poser des questions. Et en particulier, à lui demander ce qu'il voulait faire plus tard. Et non contente, parfois comme certaines dames, de poser des questions, comme il restait silencieux, elle donnait également les réponses. Et l'une d'entre elles lui dit « Ah, je sais, tu ne veux pas me le dire, mais tu veux être prête plus tard pour confesser, pour célébrer la messe, pour prêcher, n'est-ce pas ?» Et Francesco répondit simplement qu'il ne désirait rien, sauf une chose, mourir pour aller au ciel. Et on peut penser à Sainte Bernadette également, parlant de la Sainte Vierge et disant « Quand on l'a vue une fois, on n'aime plus jamais la terre. » Et la Sainte Vierge est au ciel. C'est la même chose avec Sainte Thérèse d'Avila, quand elle était petite, et qu'on retrouva à l'âge de 5 ans, partie avec son frère vers le désert. Elle allait dans le pays des morts, des musulmans. Les choses ne changent pas. Pour y subir le martyr, car pour voir Dieu, elle dira à 5 ans, il faut mourir. Nous devons désirer le ciel. Nous devons désirer le ciel. C'est la Roux qui a coupé. Bien oui. Donc, nous devons désirer le ciel. À l'heure du bon Dieu, bien sûr, mais nous devons le désirer un peu comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait quelques mois avant de mourir, « Je ne désire pas plus mourir que vivre. » C'est-à-dire que si j'avais à choisir, j'aimerais mieux mourir. Mais puisque c'est le bon Dieu qui choisit pour moi, j'aime mieux ce qu'il veut. C'est ce qu'il fait que j'aime. Et vous connaissez tous sa phrase célèbre, car on la trouve souvent sur les cartes mortuaires, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Le ciel, c'est la pleine vie. C'est la vie éternelle. Alors cela peut nous paraître un peu loin, parfois, mais pourtant la vraie vie, c'est le ciel et nous devons demander à Dieu la grâce de nous rappeler que la vraie patrie, c'est le ciel. Les saints ont désiré le ciel. Et nous devons désirer le ciel, c'est le fruit du deuxième mystère glorieux de notre chapelet que nous méditons. Pensez à cette personne qui a vécu pas si loin d'ici, dans un petit château, la fille de Louis XV, la vénérable sœur Thérèse de Saint-Augustin, qui fut plus tard prieure du Carmel de Saint-Denis, ses dernières paroles avant de mourir, furent « Au paradis, vite, au grand galop ». Elle ne reniait pas ses origines. 12 octobre 1793, nous sommes à Coutances, en Normandie, dans une prison. Le père Pierre Toulorge, qui vient d'être béatifié il y a quelques mois, 37 ans, très jeune, rentre radieux du tribunal dans la cellule qu'il partage avec d'autres détenus, prêtres et laïcs. Alors, quelle nouvelle ? Bonne nouvelle. Mon procès a été jugé en ma faveur. Tous pensent qu'il a été acquitté. Pas du tout. Il est condamné à mort. La sentence est sans appel. Donc la joie, à la joie générale succède la douleur, et une bonne religieuse, très forte et très courageuse, arrêtée en même temps que lui, fond en larmes. Et le martyr, le futur martyr, lui dit avec force: « Madame, les larmes que vous répandez sont indignes de vous et de moi. Que diront les gens du monde s'ils savent qu'ayant renoncé au monde, nous avons peine à le quitter? Si nous avons de la répugnance à mourir, nous donnerons aux enfants du siècle un mauvais exemple. Et peut-être votre découragement fermera-t-il la porte du salut à beaucoup d'âmes qui pourraient se trouver dans la même occasion. Apprenons-leur par notre constance ce qu'ils sont obligés de faire. Montrons la voie victorieuse des supplices et ouvrons-nous un passage au ciel à travers les derniers efforts de l'enfer. Notre patrie, c'est le ciel. Et c'est pourquoi on disait dans les premiers siècles des martyrs qu'ils allaient aux martyrs comme d'autres iraient à des noces. Ce n'était pas des masochistes, loin de là, ce n'était pas le désir de la souffrance, mais c'était le désir du ciel. Enfin, en disant notre Père qui êtes aux cieux, n'oublions pas le ciel de notre âme. La bienheureuse Élisabeth de la Trinité disait: j'ai trouvé mon ciel sur terre, car le ciel c'est Dieu, et Dieu est dans mon âme. Le jour où j'ai compris cela, tout s'est illuminé en moi. Saint Augustin disait: Caelum es et in caelum ibis, fait pour le ciel, tu es un ciel déjà. Eh bien, pensons que notre Père qui est aux cieux habite également dans mon cœur, dans mon âme, et nous devons l'y retrouver aussi souvent que possible. Nous devons nous efforcer d'élever notre esprit jusqu'au ciel et jusqu'au ciel de nos âmes. Nous ne sommes jamais seuls. Et vous, que les cieux ne peuvent contenir, Seigneur, puisque vous êtes plus grand que les cieux, eh bien je vous remercie infiniment de prendre plaisir à habiter dans mon âme. Dieu habite en nous. La foi, la réalisation de cette présence de Dieu en notre âme est extrêmement importante pour notre vie spirituelle. Peut-être avez-vous l'habitude, moi je le fais parfois,
les vieux garçons, de vous adresser la parole, de vous parler en conduisant, en marchant, en faisant la cuisine. Bon, moi, je fais pas la cuisine, mais je me parle tout seul. Eh bien, n'oublions pas qu'il y a aussi quelqu'un là, dans le ciel de notre cœur, qui parle. Et en plus, cette personne, trop souvent oubliée, nous aime infiniment et elle attend que nous lui confions tout, que nous conversions souvent avec elle. Pensons à Dieu simplement qui est dans notre âme. Alors on avance très vite. Que votre nom soit sanctifié. Première des sept demandes de notre Père, ce n'est pas la seconde, ce n'est pas la cinquième, la sixième, la septième, les autres, c'est la première. La sanctification du nom de Dieu, c'est la priorité. Cela ne veut pas dire que les autres n'ont pas d'importance, mais cela veut dire que cette demande passe avant les autres. Il y a un ordre. Saint Jean d'Arc disait tout simplement « Messire Dieu, premier servi ». Dans les commandements de Dieu, on voit également que le premier commandement nous demande d'adorer Dieu, non pas le sixième, mais le premier, et que les trois premiers commandements concernent Dieu, que les six derniers concernent le prochain, et que le quatrième, au milieu, pour faire un petit sas, concerne et Dieu et le prochain, puisqu'il s'agit d'honorer nos parents, donc aussi notre Père du Ciel. Hein, à tout Seigneur, tout honneur. L'amour du prochain viendra après. Cela ne veut pas dire que nous puissions aimer Dieu et ne pas aimer le prochain, mais cela veut dire que d'abord nous devons aimer Dieu, et c'est l'amour de Dieu qui nous fera, si cet amour est vrai, nécessairement aimer le prochain. Et les ennemis de l'Église, ça ils existent, souvent agissent ou parlent d'une manière dialectique. C'est Dieu ou le prochain, c'est la foi ou la raison. Un des premiers à avoir opposé Dieu et le prochain, l'honneur à donner à Dieu et l'honneur à donner au prochain, la charité à donner au prochain, c'est Judas. Judas, dans ses mauvais jours, on va le lire, on l'a lu ce matin, et on va le relire dans la passion encore. Notre Seigneur est invité chez Simon à déjeuner, et c'était l'évangile d'hier aussi, avec l'évangile d'hier. Notre Seigneur est invité chez Simon à déjeuner, entre dans la salle, Marie, sœur de Marthe, scène magnifique, elle fend la foule des convives, elle casse un vase précieux de parfum qu'elle répand sur la tête et sur les pieds de notre Seigneur, qu'elle essuie de ses cheveux, et Judas dit « Ah, pourquoi ce vase, ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donné à des pauvres ?» Opposition, Dieu prochain. Et il va se faire moucher par notre Seigneur qui lui répond « Laisse-la. C'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Et cette remarque de Judas, nous l'avons réentendue depuis les changements de l'après-concile. Il fallait, soi-disant, que l'Église se dépouille de sa richesse pour mieux donner aux pauvres. Le pape Paul VI a déposé sa tiare un jour pour la vendre pour les pauvres. Et en fait, elle a terminé dans un musée, elle n'a jamais été vendue. Il y a plus de tiare. Voilà. Il fallait se dépouiller de la richesse de l'Église pour le prochain. Saint Escriva de Balaguer, le fondateur de l'Opus Dei, commentait ce passage de l'Évangile en disant « Cette femme qui répandit chez Simon le lépreux à Béthanie un parfum coûteux sur la tête du maître, nous rappelle au devoir d'être magnifique dans le culte de Dieu. » Et c'est là où je veux en venir. La sanctification du culte de Dieu, du nom de Dieu. Et il continue « Tout le luxe, la majesté et la beauté du monde me semblent peu, et contre ceux qui s'en prennent à la richesse des vases sacrés, des ornements, des retables, s'élève la louange de Jésus. C'est une bonne œuvre que cette femme a faite pour moi. » rien n'est trop beau pour le Seigneur, c'est ce que disait le saint Curé d'Ars. Saint Pie X disait, je veux que mon peuple prie sur de la beauté. La beauté est l'image de Dieu, et ce qui est laid et qui est utilisé parfois dans certaines cérémonies, c'est d'une certaine manière blasphématoire. On ne se moque pas de Dieu. Et c'est pour cela, vous savez que nous sommes attachés à la liturgie traditionnelle et que nous n'aimons pas, nous pouvons le dire, nous n'aimons pas la liturgie qui n'est pas belle, qui n'est pas élevante, qui est petite, qui est humaine, qui est rétrécie, qui est minimaliste. Nous devons donner à Dieu, essayer toujours de donner à Dieu ce qui est le plus beau. Le pape Benoît XVI, quand il est venu à Paris, disait « La beauté des rites ne sera certes jamais assez recherchée, assez soignée, assez travaillée, puisque rien n'est trop beau pour Dieu qui est la beauté infinie. Nos liturgies de la terre, disait-il, ne pourront jamais être qu'un pâle reflet de la liturgie céleste. » Entourons de la plus grande vénération le sacrement du corps et du sang du Seigneur. Ne négligeons rien pour lui manifester notre respect et notre amour. Donnons-lui les plus grandes marques d'honneur. Et, entre parenthèses, félicitations à toutes celles d'entre vous qui balaient l'église, qui mettent les fleurs, qui font de la couture pour les ornements, pour toutes ces choses-là, etc. Tout ça concourt à la sanctification du nom de Dieu, à la sanctification de la beauté de la liturgie, à la beauté de la maison de Dieu, vous voyez. La sanctification du nom de Dieu, c'est l'honneur rendu à Dieu. Si Dieu est le roi des rois, et il l'est, si Dieu nous a créés, et il est notre créateur, eh bien, nous lui rendrons amour pour amour, et nous lui donnerons ce que nous avons de plus beau. Et on passe un petit peu. Nous devons honorer Dieu également qui se donne à nous dans la Sainte Eucharistie en entourant donc la Sainte Messe, en entourant la liturgie de rite le plus vénérable possible. C'est une question de foi. Saint Padre Pio, qui était tout sauf commode, et qui reprenait les gens assez durement, il avait le don de lire dans les âmes. Vous voyez, on est toujours dans la sanctification du nom de Dieu. Et le bon Dieu lui donnait même de savoir ce que ce dirigé faisait ici et là. Et un jour, l'un de ses fils spirituels, ça devait être un peu pénible quand même, hein, qui vivait à Rome, un jour où il se trouvait avec des amis, par fausse pudeur, par respect humain, nous aussi nous connaissons cela, eh bien, il omit de s'incliner devant le Saint-Sacrement, c'est-à-dire de retirer son chapeau, comme il avait l'habitude de le faire à chaque fois. Et il entendit à l'oreille une voix, celle de Padre Pio, qui lui dit gentiment « Lâche ». Alors il en fait un peu remuer, et quelques jours plus tard, il se rendit à San Giovanni Rotondo, et avant même qu'il ait rien pu dire sur cet incident, Saint Padre Pio lui dit « Fais attention, je ne t'ai fait qu'un reproche pour cette fois-ci, mais à l'avenir, je te donnerai une belle gifle. » Le nom de Dieu, c'est-à-dire le nom de Dieu, c'est-à-dire Dieu, doit être sanctifié et honoré. Nous devons honorer Dieu par ses marques de respect. Je terminerai avec deux petites histoires de Saint Padre Pio qui n'ont pas tellement de rapport mais qui sont amusantes. Un jour, un homme habillé en complet attendait en compagnie d'autres hommes. Il était le premier en file d'attente et dès que Saint Padre Pio le vit, il dit « Mon père, je constate que vous vous êtes présenté sous déguisement. La prochaine fois, de grâce, n'ayez pas honte de revenir habillé en prêtre. » Et un autre jeune homme, qui se présentait à lui simplement vêtu d'un pantalon et d'un pullover, Padre Pio ordonna de partir et de revenir portant l'habit dominicain et confus, l'homme reconnu être un prêtre dominicain. Et l'habit sacerdotal, c'est vrai, est aussi une marque de respect envers Dieu, une marque de respect envers les sacerdotes. Le prêtre n'est plus du monde, il a reçu Dieu au prix du monde qui qu'il a laissé, et s'il reste mondain, ce sont les dernières lignes. Ou habillé selon le monde, eh bien il ne prend pas Dieu au sérieux. Donc voilà, il est